questions liées à ce qu'on peut rassembler derrière de moi, de Aïcha, sans, sans voyage ou sans autre, sans cause. Est-ce que le prophète l'a fait?
السادسة إلا 5 دقائق صلى الظهر في وقته في آخر وقته، لكن بمجرد أن يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سيكون دخل وقت العصر فيقوم ليصلي العصر، فصلى الظهر في آخر وقته وصلى العصر في أول وقته. أنت إذا نظرت إليه ترى أنه جمع الظهر والعصر، والحق أنه لم يجمع بينهما لأنه صلى كل صلاة في وقتها، فهو جمع صوري في الصورة فقط وليس جمعا حقيقيا. وهذا مذهب كثير من العلماء من المذاهب، رأوا أن هذا الحديث فيه هذا الجمع الصوري، وهذا طائفة من المالكية عارضته وقالت لا، بل الجمع جمع حقيقي وليس جمعا صوريا. ولكن هذا الجمع يكون في حال الحرج، وبهذا فسر ابن عباس لما سئل عن ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته. ما الحرج؟ لأن هذا السائل الذي يسأل هل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فأنا أفعله فعله أيضا؟ نعم فأنا أفعله. لا، قد يمشي أكبر، النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل غيره أيضا، فكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وما روي عنه إلا أنه فعله مرة، الحديث ليس فيه ذكر المرة، ولكن فيه أن ابن عباس قال جمع النبي والفعل يصدق بالمرة، فمن زاد عليه قال جمع مرتين وثلاثة وأربعة احتاج دليلا نشوف. فكما فعل يسلم افعل في الحرج، ولكن في أكثر أحوالك يجب أن لا تفعل لأن عندك الأحاديث الأخرى أيضا. القضية ليس فيها حديث ابن عباس تقول واش دارها النبي صلى الله عليه وسلم، نعم دارها إذا نديرها ما تكلمونيش، لا المسألة ماشي هكا. المسألة كاين حديث ابن عباس وهناك أحاديث أخرى أيضا، فلا يمكن إهدار أحاديث كثيرة من أجل حديث واحد، ولا نهدر أيضا حديث ابن عباس، ولكن نقول عند الحرج. إذا ما الحرج؟ واش الحرج هو المشقة؟ لا، من يفسر الحرج بالمشقة فقد فسر الحرج تفسيرا غلطا. الحرج هو أعظم من المشقة، المشقة لا تخلو من التكاليف الإسلامية، المشقة لا تخلو منها التكاليف. المرفوع عن في ديننا المرفوع هو الحرج وليس المرفوع المشقة. على الآن إذا صمت أنت من الرابعة صباحا إلى العاشرة ليلا هذا تجيك أنت سهل ولا فيه المشقة؟ ألا مشقة فيه؟ تبارك الله كأنه يوم لا نهاية له، مشقة عظيمة مع ذلك تصوم. لماذا تفتر؟ لماذا لا تفتر بسبب أن الدين لا مشقة فيه، دين يسر؟ طيب الآن الصبح يؤذن في الرابعة صباحا، أليس يشق الاستيقاظ لصلاة الصبح في وقتها؟ يشق يشق. هذه المرأة التي تحتجب والحر شديد أليس شقا عليها ذلك الحجاب؟ نقول لي أحتاج بنتي غير في الشتاء تكون البرد مزيان ديري الدرات درد ودنيك من البرد وتسخني شوية قفاك. الحار الحار الناس تخرج من جلدها وهي دايرة الدرة وغطيها الراس وغطيها الحنق وغطيها كذا، أليس هذا فيه مشقة؟ بلى فيه مشقة. فلماذا لم يرفع كل هذا؟ ولماذا أردنا أن نرفع فقط هنا مع المغرب مع العشاء؟ لأن في أكثر تكاليف الإسلام فيها مشقة. ما المرفوع؟ المرفوع هو الحرج. إذا فما الفرق بين المشقة والحرج؟ ونترجموا هذا الناس الفرنساوي وعاد نقول لكم شنو الفرق. إسكو لو بروفيت صلى الله عليه وسلم رسومبلي هاد لي صلاة أفي أن جمع أنتخ سي صلاة سان بلوي سان فواياج سان مالادي؟ وي لو بروفيت صلى الله عليه وسلم لافي. سامبليك كوا سيت كيستيون؟ إسكو سيت كيستيون سو ليميت إيسي؟ C'est ici la fin de la question. Tu me poses la question, est-ce qu'il l'a fait? Je te dis oui, il l'a fait, et puis tu t'en vas, et puis c'est tout. C'est là où ça se termine notre discussion. Ou l'inter, tu veux cette réponse pour bâtir sur ma réponse quelque chose. Je présume que tu veux ma réponse pour l'utiliser pour quelque chose. Ah, moi, je veux te donner avec ma réponse autre chose que tu veux utiliser encore. Il n'y a pas qu'un seul hadith. Ce hadith-là, dans lequel Nabi sallallahu alayhi wa sallam كتقول جمع
أصنبلي
كي سنكي لكم خيم بال الفرنسي لا العرب ديت سيلو ديت أسيت لا جسي لا جسي سي مالغو يفو با لدير يفو كي وز أبخني أهو فامي أهو في العرب. الله يسهل على الجميع. لا ولكن de toute façon je vais parler en français. C'est pas la question mais je pose la question vous qui ne comprenez pas le français mais vous connaissez vous comprenez quand je dis le jamaa entre les salawat. Bien. Pourquoi on ne se tente pas à expliquer des choses qu'ils comprennent déjà? Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait un jamaa entre les prières sans raison, parce que les fuqaha quand ils disent le jama', ils permettent le jama' à des conditions. Soit le voyage, et ça, il n'y a pas de divergence entre les savants, soit la pluie, et ça, il y a une divergence dans quelques détails, soit la maladie, il y a encore des divergences sur les détails. Mais sinon, ce sont les trois conditions qui permettent le jama'. Dans ce hadith-là, et c'est un hadith authentique, rapporté par Muslim, rapporté par Malik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le jama' à Médine, donc il n'y a pas de voyage, et sans malade, sans maladie, sans pluie. Pourquoi? C'est sorti, c'est un hadith qui est sorti de la règle générale. Cette règle générale, d'où les fuqaha l'ont pris? Ben des autres hadiths. C'est pas il y a une réunion entre les fuqaha, alors qu'est-ce que vous pensez, on va dire ça, on va dire ça. La chose ne se passe pas comme ça. Mais il y a plusieurs hadiths qui relèvent de mawaqit, la prière. Il y a plusieurs hadiths. Alors cet ensemble homogène de hadiths qui tend vers les mêmes choses, les fuqaha en ont tiré la règle générale, c'est que la salah doit être faite en son temps, sauf si il y a telle ou telle condition. Vient alors ce hadith qui sort de cette homogénéité. C'est pourquoi les savants, les fuqaha, ont divergé dans sa compréhension. Les uns, ils ont dit, ce n'est pas un jama réel. C'est un jama apparent uniquement. Mais en fait, dans la réalité de la chose, ce n'est pas un jama. Quand ils disent que, bon, pour la première prière par exemple, mettons que c'est jama entre le Dhuhr et l'Asr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait sa prière dans le dernier temps du Dhuhr. C'est comme maintenant le Dhuhr, l'Asr il est à 6 heures, donc le Dhuhr il se termine à 6 heures, le temps du Dhuhr il se termine à 6 heures. Lui, toi tu fais ta prière à 6 heures moins 5 du Dhuhr. Tu fais tes 5 minutes. Ça te suffit pour faire les 4 rak'at. Tu fais salam alaykoum, salam alaykoum, c'est 6 heures, c'est le temps du Asr. Tu te lèves après, tu fais le Asr. Quelqu'un qui se limite à l'apparence, il croit que tu as fait le jama. Pourquoi? Parce que tu as fait les deux salats en même temps. Mais en fait, dans la réalité de la chose, il n'y a pas de jama, puisque tu as fait le dhuhr dans le temps du dhuhr et tu as fait le asr dans le temps du asr. Sauf que tu as fait le dhuhr dans son dernier temps et le asr dans son premier. C'est ce qui s'appelle, c'est ce qu'ils ont appelé un jama figuré, un jama uniquement apparent, mais ce n'est pas un jama réel. Ça, c'est comment l'ont expliqué une large partie des ulama. Pourquoi l'ont-ils expliqué comme ça? Pour qu'ils le fassent rentrer dans l'homogénéité des autres hadiths. Bon, il y a des malikites comme d'autres qui ont dit non, ce n'est pas un jama figuré, c'est un jama réel. Donc ce n'est pas faire la première dans le dernier de son temps et la deuxième au premier de son temps, donc c'est un jama réel. Alors pourquoi le Nabi l'a-t-il fait? Sans maladie, sans voyage, sans pluie, la question a été posée à Ibn Abbas, celui qui rapporte le hadith de Nabi. On lui a posé la question, pourquoi lui a-t-on posé la question? Déjà, ça c'est un élément de compréhension. Pourquoi poseront-ils la question à Ibn Abbas? Est-ce que chaque fois que Ibn Abbas, ou quelqu'un d'autre que Ibn Abbas, raconte quelque chose du prophète, on lui pose la question, pourquoi le prophète a-t-il fait? Moi je lui pose la question. Non. Il raconte, soit lui, soit quelqu'un d'autre, et puis les gens, ils se taisent et ils font. Ils ne posent pas la question, pourquoi? Alors moi je lui pose la question, pourquoi? Ici, ils ont dit pourquoi? Ah, voilà. Là, c'est un élément de compréhension, parce que ça sort de l'homogénéité, ça sort de la règle. Et quand quelque chose vient sortant du mode général, ben on pose la question pourquoi est-elle ainsi. On ne pose jamais la question pourquoi pour une chose qui vient dans la norme. Mais quand il y a quelque chose qui sort de la norme, on pose la question. Déjà ça, c'est un élément de compréhension. D'accord? Alors, l'Abbas, on lui pose la question. Pourquoi le Nabi l'a-t-il fait? Il a dit, pour que sa Oumma ne tombe pas dans le haraj. Bon, là, on commence à expliquer que ça veut dire le haraj. Là, c'est la débandade dans l'explication du haraj. Chacun explique comme il veut. Il ne faut pas expliquer comme on veut. Le haraj, c'est un mot arabe. Que les Arabes comprenaient, que les compagnons comprenaient, que les savants de l'arabe comprennent. Donc tu ne peux pas dire, ça je ne peux pas, donc c'est haraj, donc je ne peux le pas faire. Non, ce n'est pas à toi d'expliquer, toi qui demandes ce que c'est que le haraj. Alors, Comment est-il expliqué le haraj? Beaucoup l'expliquent par le mashqa, la difficulté. C'est une très 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 mauvaise explication. Il n'y a pas d'enseignement dans l'islam qui n'est pas une difficulté, grande ou petite soit-elle, mais il y a une difficulté. Et j'ai donné des exemples. Maintenant, vous allez jeûner, inshallah, Ramadan est proche. Vous savez combien vous allez jeûner? Combien d'heures? À plus. 18 heures. Ça fait. Et ouais, je ne sais pas se moquer. Le fait de jeûner 18 heures, il n'y a pas de difficulté d'ici. Il n'y a pas de mashqa. Pourquoi ne dit-on pas, ah bébé, puisqu'il y a mashqa, il y a haraj, je ne jeûne pas. Je vais attendre jusqu'à ce que le maghrib soit 4h30 ou la, bon, 5h, et là je jeûne, il n'y a pas de mashqa. Ils font les gens comme ça, ils font comme ça. Et pourtant, ils trouvent normal, bon, le jeûne, oui, c'est le mashqa, c'est la difficulté. Et il est supportable, oui, quand elle devient insupportable, là c'est le haraj. J'ai donné un autre exemple, des femmes maintenant voilées. Et quand, canicule ou pas canicule, tu restes voilé. Les gens, s'ils pouvaient sortir de leur peau tellement ils ont chaud, ils feraient. Et elle, toujours son voile, déjà quand elle entre, tu vois ta mère ou ta soeur ou ta femme, elle entre à la maison, elle commence à se dire, elle enlève. Pourquoi? On suffoque. Et pourtant, aucune d'elles ne dit, non mais maintenant il fait trop chaud pour le voile. Et il y a une difficulté, il n'y a pas de difficulté. Il y a une difficulté. Même nous qui ne nous voilons pas, déjà ça, pendant le quand il fait chaud, voilà qui les ont pris l'habitude de me voir avec le khoub. J'ai pas envie de casser cette habitude. Mais il y a difficulté. Et pourtant, cette difficulté ne mène pas les musulmans les femmes musulmanes à se dévoiler parce qu'il y a difficulté. Qu'est-ce qui n'est pas de notre religion? C'est le haraj. Et ce n'est pas la difficulté. Le haraj n'est pas la difficulté. Et comment le farq? Le haraj, non, le haraj. Le haraj, c'est le haraj. C'est quelque chose qui est le haraj. C'est le haraj. تكون أغصانها التفى بعضها ببعض بحيث أنك لا تستطيع أن تمر فيها لست أن تخترقها فإذا اخترقتها مرت فيها جرحت نفسك وقطعت ثوبك هذه الحرجة فالحرج هو هذا النوع من الضيق من عادة الشريعة أن تأخذ الكلام الألفاظ التي يعرفها المخاطبون بها فتجعل لها هذه المعاني المعنوية هذه المعاني التي ليست هي من المحسوسات ولكن أصلها محسوس فإذا تكلم قيل العربي هذا شيء محرج يجيء للعربي صورة هذه الشجرة الملتفة التي لا يستطيع المعز ولا يستطيع هذا اختراقها لأنه ضيقة وكذا هذا هو الحرج فالشيء الذي يبلغ فيك أنت هذا المستوى هذا هو الذي يرفع عنك أما مطلق المشقة فلا يجي إلى سؤال صاحبنا المراد منه فيما أحسبه والله أعلم الجمع بين المغرب والعشاء في حالكم مثلا حيث لا سفر ولا مطر ولا مرض فنجمعوا اليوم وغدا والشهر الجاي والشهر اللي موراه علاش لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل معاذ الله هل انت عندك ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا كل يوم لمده شهرين متتاليين هل كفار هذا ولا انت عارف كفاره شهرين متتابعين لا اذا كان الحرج نعم يفعل واذا لم يكن حرج فالدين لا يخلو من مشقه والاجر على قدر النصب ثم لا ينبغيها أن يكون هذا فتوى عامة في مساجد الناس طيب أنت عندك حرج نحن لا نكذبك أنت جيتي وقلتي أنا عندي حرج في هذه القضية لا إذا قلتي حرج المفتي هو ما دخلش في عظامك يقول لك لا راك كذبتي ما عندك حرج أنت ودينك ولكن أنت عندك الحرج علاش كاع المسلمين أنت تقول راه عندهم الحرج علاش كل الناس خصهم يصلوا في الجامع المغرب والعشاء ويمشيوا شو نقول لك راه كل واحد في هذوك الناس راه فيه الحرج اللي فيك انت فيك الحرج ما تجيش الجامع سير جمع في دارك وناس ولكن المسلمين يحملون على الأمر العتيق. مفهوم كلام؟ فكيف بعد ذلك أنا أحدث أن في مساجد تجمع بين المغرب والعشاء ثم يرجع هذا الذي جمع بين المغرب والعشاء فيرجع إلى بيته ويتعشى ويشرب الشاي ويجي وقت العشاء اللي كانت يصلي العشاء في الجامع هو راه تيشرب تاي كل حلوة باقي ما نعش، واش الحرج عندك غير في الصلاة ولا؟ إذا المشكلة هذا، فهذه فتوى وعلى جلالة قائلها يعني كانوا من أهل العلم هذا الذي أول الذي كان أول من أنشأها وسيارها في أوروبا رجل من علماء. لكن عندي والله أعلم والله يغفر لنا ولا أنه أخطأ في هذا لما جعلها فتوى عامة، إن كان جعلها فتوى عامة، لأنني لقيت بعض الناس الذين كانوا معه وكانوا من أخصائي يقولون الأمر الذي أشيع أنه قاله ليس كما قاله هذاك الرجل هذاك العالم. فإذا جعلها فتوى خاصة فيجب أن تبقى على خصوصها ولا تعمم في المساجد، لأنه مثل هذا الأمر الذي يكون فيه حرج يتعامل معه بالأفراد ولا يتعامل فيه بجماعة. جماعة سافني لطنب راكم كلكم في حرج، يكلا بس ايش طالع لكم مالكم؟ نفهم الكلام؟ دونك لا ديفيرونس انتر الحرج و لا ديفيكولتي c'est une difficulté grande, c'est une difficulté hors norme, c'est une difficulté qui est bon, c'est pas insupportable mais qui est dur à supporter. Tu peux supporter mais c'est vraiment trop dur. C'est ça le haraj. Quand il y a ce genre de difficulté là, la charia ne t'oblige plus de faire, mais elle te trouve une issue de secours. Bon, maintenant la question, est-ce que le prophète Lassan a fait tel et tel? Moi je suppose, comme vous supposez, si j'ai raison, ben c'est bien, mais si je n'ai pas tort, si j'ai tort, je n'ai pas mal fait en répondant à la question, en supposant la question. Je suppose que celui qui pose la question a à l'esprit le fait de rassembler le Maghreb et l'Isha pendant l'été. Le Maghreb il est à 10h, là, je ne sais pas quand est-ce qu'il ira jusqu'où. L'Isha aussi, Tarawih. C'est une autre histoire, troisième histoire. Et là, quand est-ce qu'on va dormir? Combien est-ce qu'on va dormir? Oui, mais est-ce que ça c'est le haraj? Je suis tout à fait d'accord que c'est difficile. Aucun être pensé ne te dira c'est facile. Oh, tu as 3 heures, mais c'est facile. Là, c'est un fou, elle a 3 heures. C'est difficile, j'en conviens. Mais est-ce que c'est le haraj? Du moment que tu peux récupérer, après quand tu sors de... Tu termines à quelle heure le travail? L'école, le lycée, etc. Tu termines à quelle heure? À 16h, à 17h, 18h. Tu as encore 4 heures pour dormir. Tu peux venir, tu peux rentrer, tu peux dormir. Là, c'est un acquis, le fait de dormir. Si vous faites, les musulmans ici, ils font comme des employés d'entreprise. Hadak, les 4 heures qu'on dort, la 3 heures qu'on dort, c'est un acquis, on n'en parle plus. Là, on cherche maintenant à grignoter quelque chose dans la nuit. On veut dormir ici. Là, et puis, ce sont deux mois. Je conviens que c'est difficile. Moi, qui viens seulement une ou deux journées ici chez vous, donc c'est une seule nuit, et ça m'est pénible, parfois même très pénible, de faire le soubh. À son temps, donc à plus forte raison, vous qui, c'est pour toujours. Mais heureusement, alhamdoulilah, c'est une petite période. La majorité de l'année, c'est l'Eldorado pour vous. C'est l'Eldorado. 7h du matin, sauf 7h. Oui, 7h du matin. Le Maghreb à 4h30. Pourquoi personne ne pose la question quand... J'aimerais bien que quelqu'un vienne me dire, écoute, frère, moi je fais le jeûne du lundi et du jeudi, et je trouve que c'est trop court quand c'est le Maghreb est à 16h. C'est trop court. Est-ce qu'il y a une possibilité que là, on est bien, on est tranquille, et tu dis, oh, bah, tu sais, le jeûne pendant l'hiver, oh, c'est magnifique, tu prends ton petit déjeuner, tu sors, tu reviens après le travail, tu déjeunes, et tu as jeûné la journée entière. Tu es bien. Tu sais, les Marocains, ils ont un proverbe. Ils disent la biche, ce qu'elle a pâturé. Le verbe pâturer existe. Ce qu'a pâturé la biche dans le... Je sais pas, l'île au théâtre. dans la plaine. Et le paix, là, la plaine. Et le paix, dans le Sklav. Sharba. En escaladant. Ben oui. Maintenant, c'est l'escalade pour vous. Après, Inch'Allah, viendra la plaine. Hna, on n'a pas l'escalade, mais on n'a pas la plaine non plus. Vous voyez, donc. Le mouskil, mais c'est où être? Attention, le mouskil. مشكل هو يتعذب الإنسان ويصوم الإنسان ويصلي الإنسان وما يقبلش الله هذا هو المشكل انتم دابا انتم 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 ما تنقولش انتم الناس هذ اللي جالسين قدامي يعني المسلمين احنا عموما تفكر في العباده ما تفكرش في القبول بالنسبه لك راه الا درتيها ولا والي راه ما تنقول لك سيدي ما بغاها كاع الله منك انت بهذا الشيء كله كاع انسان نطلب الله سبحانه وتعالى يقبل وصفي نطلب الله يقبل الله أعلم.
السؤال الثاني هل اختلاف الآراء يكون جائزا كذلك في العقائد كمثل من استغاث بغير الله La divergence est-elle autorisée dans le domaine du dogme comme ceux qui demandent secours à autre que Dieu
C'est une bonne question, c'est un mauvais exemple. طيب هذا الاختلاف العقائد أين ينتهي الفقه وأين تبدأ العقيدة هذا حد بين الشيئين لا يدركه كثير جدا من المتكلمين أنا أضرب لكم مثلا في زمن طويل جدا كانت الناس ترى وأنا عندما أقول الناس أنا أعني بالناس المنتسبين إلى العلم ممن يتكلم هنا والإذاعة والتلفزيون والناس والشيخ فلان الشيخ علتان يرون أن الانتخابات حرام حرام عقيدة لأنها من التشبه بالكفار هذه من العقائد النظام الديمقراطي من العقائد من حرام من العقائد لأنه كل شيء فيه التشبه بالكفار ماشي يجوز ولا يجوز ولا مكروه ولا كذا لا عقائد ثم ماذا وقع؟ وقعت هذه الثورات التي عرّت الناس الثورات عرّت شحال واحد يقدم راسه وراته هو نفسه بحال ولا راسه تيشوف راسه ما بقاش في واحد ما دارش حزب ودار الانتخابات كل شيء اللي كانوا تيقولوا عقائد هذه داروا تاهم احزاب ودخلوا البرلمان وداروا كذا وتاهم يدخلوا الرئاسة في ناس واش العقائد تبدل العقائد هذه لا تغيير فيها الذي يتغير فيه الاجتهاد هو مسائل الفقه أما العقائد لا نسخ فيها ولا تغير شي حاجة عقيدة لا تعتقدها طرات الثورة ما طراتش الثورة إذا هذا الشيء عندك أنت تعتقد تشبه بالكفار ما يمكن تسبب بهم يا ليت لو كنت تقول أنا أرى أن هذا حرام وصرت أراه جائزا لن يلومك الحمق هذوك لما غادي يلومك ولكن العقلاء لن يلومونك علاش العقلاء لن يلومك لأنهم يعلمون أن الاجتهاد قد يتغير ولكن أنت كنت تدير أنت كنت تدخلهم في العقائد حنا المغرب نقول لك وفين صبح عليك الحال أيوة. أين ينتهي العقائد الصحابة اختلفوا في مسائل هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج هذه عقيدة أم فقه عقيدة اختلفوا هل النبي صلى الله عليه وسلم أسري به يقظة أو مناما اختلفوا هل أسري باسمه أم لا هذه كل عقائد هذه مداخلة عندهم C'est pour ça que je dis, لهذا قلت أنا هذه هذا سؤال جيد ولكن التمثيل لهذا السؤال فاسد هكذا العقل كمن يستغيث بغير الله على أن اختلفوا في الاستغاثة بغير الله هذا سؤال يختلفوا في أن لا يستغاث بغير الله فيما يختص به الله تعالى قد يستغاث بغير الله في أمور يستطيع غير الله أن يغيث فيها أنت دابا لك أنت خارج هنايا قالوا لك شي واحد يبغى يجريسيوك ما غاديش تستغاث بما ينجمع المسلمين عتقوا الروح وهذا هذا شرك ها؟ بل أنت تستغيث بغير الله المسلمين في أمور يقدرون على أن يغيثوك فيها، ولكن تستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، من يجيزه من العلماء هذا حتى تمثل لنا به في الخلاف في العقائد وشنت القضية؟ فهذا هو المسألة. ثم يجب الإيضاح متى أين ينتهي العقائد، أين هل ما اختلفوا في الإمامة أيهم يقدم على علي أم عثمان أو كذا، هذا مسألة الإمامة اختلاف في العقائد واختلاف في الفقه، وأحيانا قد يتداخل الفقه والعقيدة فكيف تفعل أنت؟ بالنسبة لك العقائد الشيء الكلوال العقائد لا الأشعرية صافي، عندك العقائد وما غير الأشعرية والأخرين، عندك العقائد وما طواف القبور لاسي النذر القبور هذا لا يجيزه أحد من العلماء، يجي يقول لك راه جي وذبح القبر وقول لي هابون القبر أعطيني الولد وولد بنت، هذا الشيء يختلف فيه العلماء. فأنت تؤصل لاختلاف العلماء ثم تمثل لاختلاف العلماء بشيء لا يختلف فيه العلماء، فهمت المسألة؟ شنو السؤال فرنسي؟
La divergence est-elle autorisée dans le domaine du dogme ?
Alors, j'ai dit que quand est-ce que finit où est-ce que commence le dogme ? Où est-ce que finit le dogme ? Peut-on aisément toujours différencier entre ce qui relève du dogme et ce qui relève du fiqh ? J'ai dit que plusieurs parleurs. Et je dis parleur parce que je ne trouve pas de qualificatif plus adéquat pour ceux-là même qui parlent. Ce sont des parleurs. Eux, peut-être qu'ils s'assimilent des ulama. Moi, je ne suis peut-être pas d'accord. Mais de toute façon, ils parlent. Et je pense qu'en disant parleur, ce n'est ni un diminutif ni une insulte. Et c'est une qualification honnête. Beaucoup de parleurs, quand ils parlaient de choses, comme par exemple les élections, comme par exemple le fait d'entrer dans des parlements, etc. Ils voyaient ça, quand ils parlaient de démocratie, ils trouvaient ça dogmatiquement interdit. Jurisprudentiellement interdit, mais dogmatiquement interdit. Ça arrive du dogme. C'est une chose qui mène à Teshbouh. Et ça c'est interdit dans le dogme. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des révolutions dans des pays arabes. C'est le dogme qui a changé. C'est l'inchangeable qui change. Le dogme, c'est une chose qui ne change pas. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il est omnipotent, il n'y aura pas un autre verset qui te dit qu'il n'est plus omnipotent. Mais tu trouveras bien un verset qui te dit que telle chose, par exemple l'wasiya pour les parents, est permise, et un autre verset qui te dit elle ne l'est plus, par exemple. Donc ça, c'est des choses qui peuvent changer. C'est la jurisprudence, les enseignements qui relèvent du fiqh, de la jurisprudence, mais pas le dogme. Allah est omniscient, Allah est ghafour, Allah est rahim, Allah ta'ala est muttasif bil kamalat, Allah ta'ala munizza' al-naqas, ça ne change pas. Alors quand tu mets la chose dans la case du dogme, tu n'as plus le droit au changement. Tu es venu, tu as mis la chose, les élections, le parlement, la démocratie, la kada, le vote, etc. Tu l'as mis dans la case du dogme. Après, c'est passé une chose que tu ne pensais pas que ça puisse arriver. Et tu as trouvé une issue au pouvoir, au parlement, la seule issue que tu as trouvée. Et tout à coup, tu as fait ton propre parti. Et tous ceux qui sont comme toi, la majorité de ceux qui sont comme toi, et qui pensent comme toi, tout à coup, pensent autre chose. Et c'est le dogme. Si c'était le fiqh, on n'allait pas s'en étonner, parce que le fiqh, un final, ça change. Aujourd'hui, je te dis ça, je ne vois pas que c'est permis. Après un an, deux ans, je change, je peux changer d'idée, quelque chose se passe, etc. Je fais un autre final, je te dis, maintenant c'est permis. Personne ne me dirait, non, mais toi, tu changes d'idée comme ça, comme tu changes des chemises. Là, c'est le propre de l'idée. Le dogme. tu changes dans le dogme. Comment cela peut-il? Et pourtant, nous avons vu le dogme changer. Moi, je me rappelle, il y avait un savant, parmi les premiers savants, qui ont... bien sûr, je parle d'un courant bien précis de pensée. Ce savant-là appartenait à ce courant de pensée. Et il avait sorti de la norme dans cette chose-là qui s'appelle le Parlement. Et lui, il était d'accord pour qu'il y ait un parti politique, etc., pour que ça entre dans l'élection. Et l'affaire, le jeu politique, comme l'appellent les gens. Toute la mouvance s'en est prise à lui, sans exception. S'en est prise, c'est un mot, vous savez bien. Il y avait même, et on ne parlait pas de divergence, on parlait de ça, ces mots, vous savez bien. Pourquoi? Parce que la chose chez eux, ça relève du dogme. Maintenant, vous faites toute la même chose. Tous, vous avez fait la même chose. Tous, bien sûr, presque tous. Alors, il faut, je ne sais pas, nous voulons juste comprendre. Nous ne jugeons personne, mais nous voulons juste comprendre. Si c'est un mot, peut-être dire, pourquoi vous faites la même chose? Est-ce que c'est un mot, peut-être dire, uniquement quand vous-même, vous ne pouvez pas faire la même chose? Quand maintenant vous pensez que c'est une autoroute vers le pouvoir, vous y accourez, ce n'est plus un mot, peut-être dire. C'est quoi la chose? N'aurait-il pas été plus judicieux pour vous de parler de divergence de jurisprudence? Vous aurez évité la honte d'affronter les gens à qui vous parliez auparavant en disant ça c'est le dogme, c'est le mouchaba, c'est l'aqida, c'est les grands titres. Et après, 180 degrés, c'est même pas 20, 30 degrés, on dirait, bon, on n'a rien vu, 30 degrés. 180. Dans le dogme. C'est possible. C'est possible, oui. C'est possible. Tout est possible. Nous avons en arabe un dicton qui dit Aïch tara ajaban. Vis, tu verras toujours ce qui te donnera. Tu n'as qu'à vivre, tu n'as même pas besoin de chercher ou de. Juste vis. Tu iras de surprenant en plus surprenant. Ma taris gachrina la drakula.
Dogum. L'aqida. Dogum.
Donc voilà, ça c'est pour vous dire que. Il y a une méconnaissance entre ce qui relève du dogme et ce qui relève du fiqh. Ça, c'est un premier degré de réponse. Ensuite, je dis aussi qu'il y a des éléments dans le dogme dans lesquels il y a une divergence entre les compagnons. Je vais donner un exemple dans le mi'raj. Vous comprenez le mi'raj? Là, parce que je n'aime pas les mots qui ont un arrière-plan chrétien. Et puis, on n'en a pas besoin. Donc, je ne dis pas l'ascension. Je dis le mi'raj. Vous comprenez ce que c'est que le mi'raj? C'est quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait son merveilleux voyage à travers les cieux jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui ait parlé. Les savants, les compagnons, sahaba, ils ont divergé. Est-ce que c'était... En rêve que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait ça, ou en réalité, pas en rêve. Il y a une divergence entre les compagnons. Est-ce que cela a été fait par le corps et l'esprit ou seulement par l'esprit? Il y a une divergence. Est-ce que c'est une divergence dans le fiqh? Ce n'est pas une divergence dans le fiqh, c'est dans le dogme. Et ils ont divergé. نطلب الله سبحانه وتعالى نسأل الله أن يرزقنا الفهم في الدين هذا
تفضل أثناء صلاة الجماعة
mais j'ai dit que c'était comme vous avez entendu j'ai dit que c'était une bonne question mais c'était un mauvais exemple quand il a dit est-ce que la divergence dans le dogme est-elle aussi permise comme le fait de genoux
de demander secours à autre que Allah
comme le fait de demander secours à autre que Allah. Est-ce que le fait de demander secours à autre qu'Allah dans des choses qu'Allah uniquement peut faire relève de la divergence dans le dogme? Est-ce qu'il y a divergence sur cette chose-là? C'est pour ça que c'est un mauvais exemple pour une bonne question. On pose la question et puis on donne l'exemple à la question par une chose qui n'a pas de relation avec la question. Et le comble, c'est que les gens qui écoutent ne discernent pas ces subtilités. Oh, non. Le dogme, c'est pas permis. Regarde, le demander secours à Allah. Mais qui a dit que demander secours à Allah dans des choses que Allah subhanahu wa ta'ala uniquement peut faire, qu'il y avait divergence là dedans entre les ulama. Est-ce que vous comprenez? Il faut que vous ayez des esprits fins. Et surtout, quand on vous parle en français, parce que beaucoup de parleurs en français, ils parlent en français sans savoir ce qu'ils sont en train de dire en français. Ils parlent, ce sont des phrases qui sont construites en français. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans cette construction? Vous savez, nous on dit, la langue, c'est l'ustensile du sens. Tu as un bon ustensile. Il est beau, il est poli, il est brillant. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est le malheur. Puis, Ada, j'ouvre la parenthèse pour les dirigeants des mosquées. Ils ont un problème ici en France. Comme les dirigeants en Espagne, ils ont un problème. Comme les dirigeants en Hollande, ils ont un problème. Ils veulent toujours quelqu'un qui parle la langue du pays pour s'adresser aux gens. Les jeunes, ils font... Alors, ils ont ce problème. Pour ici, pour la France, il faut quelqu'un qui parle français. En Espagne, il faut que quelqu'un... Alors, ils se dirigent nécessairement vers quelqu'un qui parle en français. Malheureusement, la majorité de ceux qui parlent en français, ou qui parlent en anglais, ou qui parlent... Non, en anglais, la chose ne se manifeste pas aussi... Parce qu'il y a beaucoup de savants, surtout les hanafites de l'Asie, qui parlent en anglais couramment et qui sont des savants. Mais pour nous autres, les malikites, les shafirites, les hanbalites, nous sommes à 100 milieux de parler la langue. Quand tu trouves un alim comme il faut, c'est rare que tu trouves qu'il parle la langue comme il faut. Et quand tu trouves un parleur qui parle comme il faut, c'est rare qu'il soit un alim comme il faut. Et ça, c'est le dilemme des dirigeants des mosquées, des présidents, des associations. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il parle français et puis il vient. Et parfois, il dit des aberrations. Ça m'a... Un jour, j'étais dans un congrès où il y avait quelqu'un qui parlait français, mais qui parlait mal. Et je parle du sens. Son locution, il est bonne, sa prononciation, il n'y a rien à dire, etc. Les mots, gada, il a akhiré, la gesticulation, la mime, etc. Tout ce qu'il faut savoir sur la présentation, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'il y a dans l'ustensile? Ça, c'est une autre histoire. Et il a commencé à parler du Coran. Et il a dit une chose. Je me suis retenu. J'allais faire quelque chose qui n'était pas... Il fallait qu'elle soit faite. Mais je ne l'ai pas faite. J'ai respecté l'ordre. Mais j'en ai parlé à d'autres et puis il n'est plus revenu dans ce congrès depuis que je leur ai parlé. Il a commencé à dire une chose. Lui, ce n'est pas un savant du Coran. Il n'a même pas appris le Coran. Il ne le connaît même pas par cœur. Mais c'est quelqu'un qui parle français et qui a l'habitude de parler dans les affaires de la religion. Donc, on l'appelle ici, on l'appelle là-bas, etc. Il parle. Mais là, il a pris un peu son courage à deux mains. Il a commencé à défier et en criant, moi, je défie. Moi, je suis un peu de défi. Moi, je suis un peu de défi. Tu es venu dire deux phrases, dis deux phrases, et va-t'en. Moi, je défie les gens du dogme, les savants du Coran, les érudits. Tu défies toi. Et puis, il a dit une chose. Moi, il y avait quelqu'un des organisateurs qui était à côté de moi. J'avais un téléphone dans lequel, comme vous tous, il y a un Coran. Je dis, regarde. La chose, lui, qu'il défie, tout le monde, et dit qu'elle n'existe pas dans le Coran, regarde, dans le Baqara, les premiers versets. Aïe. Je شوف عيال هو يمدي في طول الموت الذي يغدي ليس عفوا دي قرأك أين يمدي تبقى القرآن الله تعالى من نفس البصر هيا هيا هي قرأ بعينك هيا كده القرآن بوكو سو سينما بوكو سو سينما سي لو بروبليم بوكو باسكو يفعل فرنسي N'imaginez pas quelqu'un qui parle français pour qu'il apprenne à ceux qui ne comprennent pas l'arabe des choses que moi je ne veux pas qu'ils comprennent parce que c'est dans le faux. Le problème qu'il y a, c'est que j'appelle quelqu'un qui ne parle pas français mais qui est un savant, comme il faut. Après vient celui qui traduit. Lui il ne comprend pas, il ne comprend rien de ce qui se dit en français. Avec celui qui traduit, il fait ça le soir à lui, il ne traduit pas ce qui est en train d'être dit. À l'aise, parce que... Sur un autre fier, ce n'est pas toi d'ailleurs, toi tu n'as pas traduit. celui qui fait la traduction, c'est un professeur de français, c'était un professeur d'arabe. Non, c'est quelqu'un qui est venu en France, du Maroc, d'Algérie, Tunisie, de je ne sais pas où, qui n'a pas trouvé de travail, qui a eu un abri à la mosquée, du jour au lendemain il s'est trouvé imam, il s'est trouvé kada, maintenant lui aussi s'est érigé en alim, en mufti, en mujtahid. Et puis il fait kada, kada, et un jour il vient, il te dit, ah, quand vient quelqu'un qu'on assimile à un alim et qui parle français, il dit, ah, aujourd'hui je ne vais pas faire la traduction parce que monsieur il parle bien le français. Heureusement qu'il parle bien le français pour qu'il sache, qu'il comprenne un peu ce qui est en train de le délabrement qui est en train d'être fait, mais c'est grave. Et c'est pour ça que je dis, et c'est pour ça que hier je n'ai pas parlé, j'ai parlé peu en français pour dire, pour vous inciter les gens ici, les femmes, les hommes, les grands, les petits, à apprendre l'arabe. Vous ne vous rendez pas service en ne pas apprenant, en apprenant pas l'arabe. En vous adossant aux traductions qui sont en train d'être faites, vous vous adossez à quelque chose d'ébranlable. Peut-être que vous êtes au courant, j'ai commencé des assises scientifiques ici, je suis en train d'expliquer l'Arba'in Nawawiya. Je fais un petit cours en arabe et puis une demi-heure aussi en français. Le hadith que j'étais en train d'expliquer la dernière fois, c'est le deuxième hadith de l'Arba'in Nawawiya. Alors la traduction, et c'est une traduction qui est, bon je dirais, plus que passable. Il est en train de lire, il arrive à l'endroit où Omar radiallahu anhu dit فَعَجِبْنَا مِنْهُ يَسْأَلُهُ وَيَصَدِّقُهُ. Quand Jibril alayhi salam pose la question à un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi l'islam? Et il dit l'islam c'est tel. Alors on lui dit tu dis vrai. Jibril lui dit, bien sûr ceux, les compagnons qui étaient là, ils disent nous sommes étonnés. Il lui pose la question et lui dit tu dis vrai. C'est une chose étonnante parce que quand tu dis vrai, ça veut dire que tu connaissais la réponse. Si tu connaissais la réponse, pourquoi tu poses la question? C'est une chose étonnante. La traduction, c'était comment? La traduction, quand il a lu, il a lu comme ça. Nous nous sommes étonnés tant de sa question que de sa réponse. Je dis, c'est une mauvaise traduction. Parce que dans le texte arabe, ils ne se sont pas étonnés de la question. Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant dans la question? Quelqu'un vient et te demande, parle-moi de l'islam, est-ce que tu peux me parler d'islam? Est-ce que cela a quelque chose d'étonnant? Mais quand je te pose la question, je te dis oui, tu as raison. Et là, tu t'étonnes. Comment ça, tu dis raison? Tu connaissais la réponse. Et ça, personne ne s'en rend compte. Personne. Tu prends ça comme une... C'est une révélation. Comme le texte en arabe, c'est une révélation, ben la traduction, c'est une autre révélation aussi. Il n'y a pas d'esprit critique, il n'y a pas de finesse dans le... Même vous qui ne comprenez pas l'arabe. Vous devez poser la question. Quand vous ne comprenez pas l'arabe, donc vous ne comprenez pas le texte initial. Mais vous devez vous poser la question quand il dit nous nous sommes étonnés de cette question. N'importe qui d'entre vous devrait poser la question. Qu'est-ce qu'il a d'étonnant que la question? Pourquoi il s'en étonnerait? Là, au moins, celui qui fait la traduction va être amené à réfléchir. Parce que les gens, ils ne réfléchissent pas. Il a de la matière grise. Il est devenu blanche au lèche haja. الله أعلم.
السؤال الثالث: في فرنسا ما هو الأحرى، اتباع مذهب بعينه أو اتباع الفقه المقارن أو اتباع الدليل مباشرة؟ donc la question: en France faut-il suivre une école de pensée ou plutôt le fiqh comparé, ou plutôt suivre la preuve directement.
واش كاين هل يوجد فرق بين هذه كلها؟ أسئلة عندك كثيرة ياك؟ كثيرة جدا. وإلا بقينا نهضروا بالعربية وعاودنا نهضروا بالفرنسوية الوقت ما بقاش. فأنا ما غاديش نبقى نجاوب بوحدة من اللغتين، لن أجيب بإحدى اللغتين. نجاوب غير بالعربية. يترجم هو؟ لا راه هي هذيك.
Celle-là était en français, oui. Tout le monde.
Non, non. Là, à la clé, là, donc, tu goulou, mais il y a les chersana. Quel ma chaïbe, elle dit. Chersana, ça, mais la personnalisation. Chersana. Base, c'est dit. Est-ce qu'il y a une différence entre suivre un mdhab, suivre fiqh al-muqaran, suivre la preuve directement? Maintenant, celui qui suit le mdhab maliki ne suit pas le fiqh al-muqaran. Et celui qui suit le fiqh al-muqaran ne suit pas la preuve immédiatement, directement. C'est ce que je... Vous savez, tout sort de la même mauvaise usine qui donne la même mauvaise compréhension. Tout retourne, c'est la même source. Maintenant, d'accord, pour suivre un madhab, c'est clair. Tu madhab maliki, hanbali, shafi'i, hanafi, etc. Et ça, je te dis, tu suis ce madhab-là, tu ne te poses plus de questions. Mais maintenant, je te dis, wa suis le fiqh muqarin. Déjà, pour expliquer le fiqh muqarin, c'est-à-dire dans chaque... pour chaque question, pour chaque problème, pour chaque question qui se pose, on dit, les Hanafis ont dit ça, les Malikis ont dit ça, la preuve de cela est, la preuve de cela est, ceux-là ont répondu à ça, ceux-là ont répondu à ça, et puis le Rajih est. Quand on dit le Rajih est selon qui? Selon les Malikis? Selon les Hanafis? Ou selon toi? La majorité de ceux qui parlent comme ça, c'est le rajih selon lui. Déjà, toi, est-ce que tu es apte à avoir un rajih, toi? Et en France? Oui, je dirais oui. D'accord. Tu es habilité à avoir un rajih. Est-ce que ceux qui ont maintenant pris ton opinion pour argent comptant ont suivi le fiqh al-muqarin ou ont suivi ton madhhab? Ils ont suivi ton mdhab. Toi, tu ne fais que répéter la parole de certains savants, qui sont certes des savants, et qui, eux, avaient cette habitude de parler des divergences et puis de faire leur agir. C'est leur agir selon qui? Selon eux. Donc, ton mdhab est le mdhab de celui qui a eu ce rajih. Oh, ça, c'est le fiqh al-muqaran. Maintenant, tu suis à preuve directement. Qu'est-ce que ça veut dire que tu suis? C'est-à-dire que tu ouvres Sahih al-Bukhari et tu lis et tu fais. C'est ça ce que ça veut dire? C'est ça que tu veux dire? C'est ça que tu veux m'expliquer quand tu dis la preuve directement? Certainement pas. Tu ne comprends pas l'arabe. Le français est mauvais. Traduction mauvaise. J'ai lu et j'ai vu le dernier jour... une traduction de Sahih Muslim. C'est une comédie, elle dit. C'est une pièce comique, elle. C'est pas Sahih Muslim en français. Tu ne comprends pas. Quelqu'un vient, il n'a pas de travail, il n'a pas de cadeau. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais traduire Sahih Muslim. Il commence à traduire et c'est imprimé, c'est vendu. Et puis un jour, tu le trouves dans la bibliothèque de quelqu'un. Ah, Sahih Muslim en français. Oh, pas mal. Pas mal? Très mal. Donc c'est quoi pour toi suivre la preuve Mubasharatan? C'est quand je te dis ça est permis parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et je te donne la preuve. Ça ce n'est pas permis parce que Allah ta'ala a dit. Maintenant toi tu penses que tu as suivi la preuve Mubasharatan. Ce n'est pas vrai. tu as suivi la preuve via moi. Pas Mubasharatan. Mubasharatan, c'est ça. Tu lis et tu fais. Quand tu passes par moi, ce n'est plus Mubasharatan. C'est la preuve, mais via moi. Ce via moi, est-ce que moi, je... c'est une révélation que j'ai? Quand la chose... Tout, nous tous, nous savons, nous connaissons ce hadith qui est authentique, qui est vrai, qui est dans le Bukhari. Mais il y a plusieurs explications pour ce hadith. Je vous ai donné un exemple maintenant du jama, des salawat. Dans le muslim, c'est un hadith authentique. Mais il y en a qui disent que c'est un jama, apparent uniquement, et puis il y a d'autres qui disent non, c'est un jama réel. Maintenant, moi je te dis non, Rajah, c'est un jama réel. Rajah, selon qui? Selon moi. Selon moi, selon les savants. Qui m'ont convaincu de ce qu'ils ont dit. Donc c'est pour ça que j'ai dit, est-ce qu'il y a une différence? Maintenant, vous savez, les anciens, ils avaient dit, c'est une règle qu'ils ont. Ils ont dit, madhabu al-ammi, madhabu mufti. Le madhhab de chaque musulman, dans une chose, c'est le madhhab de celui qui lui fait la fatwa. Ça fait. Maintenant, il te dit là, soit il te dit qala Malik, soit il te dit non, ça c'est permis parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit. Quand il dit parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est comment lui c'est la tendance que lui a préférée. Je ne dirais même pas que lui a expliqué, parce que c'est déjà expliqué bien avant lui. Mais c'est la tendance qu'il a préférée, qu'il a convaincu. Mais il n'y a pas que cette tendance. Je vous ai expliqué, je donne un exemple souvent d'un hadith qui est authentique. C'est le hadith qui a été compris de quatre façons différentes. C'est le même hadith. Pour le même hukm, pour la même affaire, les malikites ont une opinion, les shafi'ites ont une autre, les Hanbalites ont une troisième, les Hanafites ont une quatrième. Et tous partent du même hadith. Va maintenant, suis la preuve, Mubasharatan. Montre-moi comment tu vas faire. C'est une des voies que tu vas prendre. Soit tu vas être d'accord avec les Hanbalites, avec les Malikites, avec les Shafi'ites, il n'y a pas de cinquième voie de toute façon. Alors maintenant, moi je te dis, les Hanbalites, les Malikites, moi je te dis, kada kada, fais ça parce que kada. C'est moi que tu. C'est via moi que tu passes. Donc je trouve aberrant de gronder quelqu'un qui suit les malikites pour suivre quelqu'un d'autre. Sauf que tu, maintenant, toi, tu dessines le fait de suivre les malikites, le mdad maliki, tu le montres comme suivre une voie autre que la voie de la sunna et du Qur'an. Mais tu ériges un autre savant. Moi je dis que c'est un savant. Ce n'est pas mal à faire. Ce sont des savants. Mais comment se peut-il qu'un savant doit être suivi plus que d'autres? Pourquoi? C'est la révélation qu'il reçoit? Ou là c'est un travail de matière grise aussi? Ou là?
La question suivante, est-ce qu'il est autorisé que la femme corrige son mari lors de la prière?
Le corrige à ma correction.
Que ce soit le Coran ou la prière.
Bien sûr, elle le corrige. Oui. Il a oublié un verset, elle peut. Bah, heureusement que il est chanceux, Hadrajlada. Qu'il est une femme qui peut le corriger. Heureusement pour lui.
Ensuite, en hiver, je quitte mon domicile pour aller en cours avant l'heure de la prière de Sobh. Puis-je la prie avec quelques minutes d'avance?
Non.
La deuxième qui va dans le même sens. Avec le travail, est-ce que je peux rassembler la prière de Dhuhr? Ou à cause du travail, est-ce que je peux rassembler la prière de Dhuhr et l'Asr?
Non. Je trouvez des solutions. Vous vivez dans le contexte. Ce n'est plus des échappatoires qu'il vous faut. Ce sont des solutions. Trouvez-les. Je ne sais pas, moi, je n'ai pas de formule magique. Abracadabra, ça fait. Là, je n'ai pas de formule magique. Je pense que vous non plus, vous n'en avez pas. Et c'est pour ça que vous avez besoin de solutions. Et la solution n'est pas là, je ne vais plus qu'à je ne vais plus lycée, je ne vais plus qu'à je ne sais plus qu'à. Là, c'est pas ça. Ce sont des échappes. Tu ne peux pas vivre dans la marge de la société, c'est pas possible. Mais il faut trouver des solutions. Il faut faire des efforts. Il faut se réfugier à Allah subhanahu wa ta'ala pour vous aider dans vos solutions. Allah sahala alaykum wa sahala alayhi jamia.
Pendant la prière, faut-il coller les pieds et les épaules avec ses voisins?
Oui. Oui. Mais délicatement, doucement. Et puis, si la personne qui est à côté de nous s'enfuit de nous en éloignant son pied ou son épaule, on ne s'obstine pas à la suivre. Parce qu'on peut tomber dans des excès qui vont annuler toute la salle. Il y avait quelqu'un, un vieillard, qui faisait la prière dans une mosquée au Maroc. Et puis il y avait un jeune, un jour, qui était venu, qui était à côté de lui dans le rang. Alors lui, il met son pied à côté de lui, le vieillard éloigne son pied. Alors le jeune homme le suit. Le vieillard le rééloigne. Bon, le jeune ne le suit pas tout de suite. Ils sont en train de faire la prière, prévient le roquois. Alors quand il fait le roquois, le jeune, il attaque. Alors le vieux dit, maintenant c'est le roquois, ils sont en train de faire ça là. Le vieux dit, attention, 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 attention. Ça, la même chose. Il n'y a plus ça là. Il n'y a plus ça là. Et c'est lui la cause. C'est le jeune la cause. Et je ne pense même pas que le vieillard a refait kbir l'ihram. Non, il a continué dans sa salade. Pour lui, c'est très normal de dire attention dans le roi. C'est pour ça que je dis oui, c'est une sunna, ça là, c'est bien. Il faut instruire les gens. Mais tu trouves quelqu'un instruisable et ininstruisable. Ou là, ininstruisible. Moi, je me tel français, c'est un peu plus de temps. Ça fait, c'est un petit, c'est du vieux bois. Tu casses. Tu ne t'acharnes pas derrière lui, ça fait. Voilà. Allahu a'lam.
Peut-on ramener des enfants en bas âge à la mosquée?
Si on leur apprend la tenue à avoir dans la mosquée. C'est une mosquée, c'est un lieu de ibadah, c'est un lieu de science, c'est un lieu de tranquillité un peu, c'est un lieu d'évasion vers Allah Ta'ala. Je ne vais pas m'évader de la mosquée aussi parce qu'il y a des enfants qui crient partout. Il faut leur apprendre la bonne tenue dans une mosquée. Si ils sont dans un âge où ils ne peuvent pas apprendre, eh bien je ne les amène pas à la mosquée. Et c'est, ça vaut beaucoup mieux que de les amener les gronder, que de les amener les poursuivre. Déjà, ça commence mal avec la mosquée.
Donc, il y a une question qui revient souvent. Est-ce que les femmes ont le droit d'avoir les pieds nus pour sortir? Et la deuxième question est pour faire la prière.
Ni pour sortir, ni pour faire la prière. Elles doivent avoir les pieds couverts dans la prière comme dans la rue parce que les pieds font partie du aura de la femme. Allahu a'lam.
Prochaine question. C'est quoi la priorité? Est-ce que c'est la foi, apprendre la foi à nos enfants ou apprendre le Coran à nos enfants?
Vous savez, notre religion est une religion qui se vit. Ce n'est pas une religion qui s'apprend. Ce ne sont pas des informations que nous apprenons mentalement. Non, ce sont des choses que l'on vit. La foi, normalement, devrait être vécue dans ton ménage, dans ta maison. tu n'auras même pas besoin de l'honneur de la rendre une science qu'il faut dire voilà, 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 voilà. Non, par contre, le Coran, c'est quelque chose qui s'apprend. Avant de, c'est dans le vécu aussi, mais il ne peut être appris par cœur qu'en l'apprenant. Il n'y a pas d'autre solution. Mais la foi, c'est malheureusement vrai. Elle n'est pas vécue. Et c'est malheureusement vrai. Tu parles à tes enfants de choses, ils sont déjà grands et toi-même parfois ils te posent des questions. C'est comme des cols qu'ils te posent. Et tu as honte devant ton enfant de 3 à 4 ans qui te pose une question. Tu viens voir l'imam, Allah, tu vois mon fils m'a posé une question, je ne sais pas quoi lui dire. Et tu n'as pas honte. Ton fils de 4 ans, et puis quand il aura 18 ans, à la question de 18 ans. Là, c'est une chose qui se vit. Quand tu parles à ton fils du prophète, ce n'est pas des informations que tu lui donnes. C'est une vie qu'il voit chez lui, sur toi, sur sa mère, sur votre quotidien. Bien sûr, dans la mesure de votre possible. Mais ce sont des choses qu'il doit vivre. Il doit vivre.
Tout le monde. Que fait celui qui ne peut être présent pour le Jumu'ah à cause du travail? Est-ce que c'est autorisé
de
ne pas assister à le Jumu'ah à cause du travail?
C'est autorisé. Le Jumu'ah c'est un travail aussi, non? C'est pas un travail le Jumu'ah? C'est un travail que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de faire. L'autre travail, c'est un travail que les gens ont ordonné de faire. On te regarde le travail que tu passes en premier. Est-ce que c'est celui que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné ou celui que les gens ont ordonné? Sauf que Allah subhanahu wa ta'ala a fait une petite issue pour des personnes qui seront dans le haraj. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans son hadith que vous connaissez tous, que celui qui ne se présente pas, qui ne participe pas, qui ne fait pas 3 Jumu'ahs suivis, c'est quelqu'un qui aurait un sceau sur son cœur, c'est-à-dire que c'est un cœur scellé, fini de munafiq. Maximum, essayez de ne pas avoir 3 Jumu'ahs de suite. Une Jumu'ah de présent, une Jumu'ah absent. Je ne dis pas que je te recommande ça, mais je te dis ça, c'est le fond, c'est le bas fond, tu ne peux pas descendre plus en bas.
Il y a une question ici, est-ce qu'on a le droit d'assister à l'enterrement et mais aussi suivre...
C'est ça ce que je vous dis, je dis toujours, quand tu viens pour l'embauche, pourquoi tu ne dis pas, il faut que j'aille faire la prière? Ils posent eux leurs conditions, pourquoi tu ne poses pas toi aussi la tienne? Tu veux travailler à tout prix. Là, il faut que tu travailles un travail, mais il y a quand même des choses. Tu ne peux pas négliger. À la limite, vous me donnez une heure ou la deux heures pour le Jumu'ah, je fais après deux heures, trois heures, mais c'est pas un problème, c'est pas un riba. Vous donnez-moi deux heures, je vous en donne, je vous les retourne en quatre heures, le Jumu'ah. Tu peux le faire. Vous ne faites pas l'effort de vous imposer un tout petit peu. Vous ne le faites pas. Vous avez peur. Vous êtes timide. Vous êtes. Et pourquoi vous êtes timide? Pour les choses que vous devez être timide pour, vous ne l'êtes pas. Et pour les choses qu'il n'y a pas lieu d'être timide, on est timide. Moi, si tu viens, tu me dis, c'est une histoire que j'ai racontée. Il y a quelqu'un, j'étais un jour en Allemagne, j'avais un congrès là-bas. Il y a quelqu'un qui vient, le lendemain c'est mon dernier jour et puis je m'en vais. Il vient, il me dit, il faut que je dise au revoir maintenant parce que demain je ne pourrai pas venir. Je dis pourquoi? Il me dit parce que j'ai du boulot demain et puis je viens tard chez moi et puis je dois faire toutes mes prières quand je viens à la maison et donc je ne serai pas à temps. Quand il me dit je ferai toutes mes prières, je dis mais pourquoi tu ne fais pas tes prières à temps? Il me dit non parce que je travaille dans un secteur, bon c'était dans un commerce, et puis le propriétaire ne me laisse pas faire la prière. Je lui dis, est-ce que tu lui en as déjà parlé? Il me dit non. Qu'est-ce qui t'en empêche? Demande-lui, dis-lui, je suis musulman, je dois faire le dhuhr. Au moment du dhuhr, je dois faire l'asr. Il me dit non. Je lui dis, écoute, promets-moi que tu lui en parleras demain. Je lui dis, oui, je dis, cher, je te promets, je vais lui en parler. Le lendemain, je le vois. Il est venu, il m'a pris dans ses bras. Il allait me casser les côtes tellement il était content. Il me dit, cher, aujourd'hui, j'ai prié le dhuhr en son temps depuis je ne sais plus combien de temps. J'étais en train de pleurer en faisant ce jour tellement j'étais content que j'étais en train de faire ma prière en ce moment. Il dit, cher, tu sais ce qui est aberrant? Je lui dis, c'est quoi? Il me dit, le propriétaire du commerce est un musulman. Et quand il lui en a parlé, il dit, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit auparavant? Et vous avez le cas de cette personne-là, c'est le cas de plusieurs d'autres comme elle. Mais il faut faire un effort. Combien de fois il y a le français, le patron d'usine, etc. Ça, c'est quelqu'un que je connais. C'est un vieillard, c'est un travail manuel. Donc, ce n'est même pas un docteur ou un ingénieur qui peut se permettre de poser des conditions. C'est le bas de l'échelle. Ce sont la première génération qui est venue pour travailler pour... Et il se cachait dans son usine pour faire sa prière. Il y avait le patron d'usine, le contremaître, tout. Et lui, il ne pouvait pas ne pas prier. C'est un chelah. Et il y en a des chelahs comme ça. Et sa prière, il faut prier, ça fait une... Un jour, il est pris sur le fait, en flagrant délit de prier. Puis il y a le contremaître qui dit au patron d'usine, ah, tu sais, Flan, je l'ai vu, mes propres yeux, en train de faire sa prière. Alors le patron vient, il rassemble tout le monde, il lui met lui à l'écart. Il dit, le monsieur tel m'a dit que vous étiez en train de faire votre prière. Tout le monde, la majorité ce sont des musulmans. Le patron, qu'est-ce qu'il lui dit après? Il dit, toi, quand tu veux faire ta prière, tu vas à la mosquée. Le jour où tu fais tout à la mosquée. À ce moment-là, les musulmans, les autres, nous aussi, personne d'autre ne bouge. Lui, uniquement. Il n'a même pas eu le besoin de demander. Le français l'a fait. Pourquoi? C'est bain, très clair. Celui-là, la chose, il la prend au sérieux. Antouma, Bunchil Jumu'a, la Kindraver, juste une récréation de plus. Vous ne faites pas l'effort. Et puis vous oubliez toujours que celui qui a les cœurs des gens entre ses mains, c'est Allah Ta'ala. Pas vos cœurs, à vous uniquement, même le cœur des patrons. Un chrétien, un juif, un français, un polonais, un chouard, gage, un kamar. Allah Subhanahu wa Ta'ala, c'est son cœur, c'est entre les mains d'Allah Ta'ala. T'lab Allah Ta'ala, un plan. C'est un doua de quelqu'un qui est dans le besoin. Amma yujibu al-muttar ila da'a. Wallahu a'lam.
Est-il autorisé d'entrer dans une église pour soutenir la famille du défunt, quelqu'un qui serait éventuellement non-musulman, qui serait non-musulman?
Wallahu a'lam.
Quel est le statut de Salat al-Tasbih? Est-elle équivalente au sermon du vendredi pour celles qui n'y assistent pas?
C'est quoi Salat al-Tasbih qui peut être à la place de Salat al-Jumu'ah? Je ne sais pas moi, Salat al-Tasbih qui peut être à la place de Salat al-Jumu'ah. Je connais une Salat al-Tasbih sur laquelle il y a une très 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 grande divergence entre les ulama. Mais ce sont deux, ce sont une nafila. Hein. Mais une salat tasbih, pour une personne qui n'assiste pas au Jumu'ah et qui fait salat tasbih et qui pense que c'est bon pour son Jumu'ah, ben il n'y a pas.
en arabe, وهل تقوم مقام صلاة الجمعة بالنسبة للنساء التي لم يحضرن للجمعة.
Alors la femme n'a pas d'obligation de Jumu'ah. Le Jumu'ah n'est pas une obligation pour la femme. Si elle vient, c'est bien. Mais si elle ne vient pas, elle n'est pas tenue de la faire pour qu'elle commence à réfléchir à quelque chose qui puisse venir à la place du Jumu'ah. Si elle ne vient pas Jumu'ah, elle fait son dhuhr et puis c'est tout. Allah a'lam.
Une question dans les transactions. Et quel est votre avis jurisprudentiel sur le taux de change au noir?
Je ne sais pas. Nous n'avons pas ce problème au Maroc, donc je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire ce taux de change en noir. Donc je présume qu'il y a deux taux de change. Un taux de change
officiel
à la banque et un autre en noir.
Officiel.
Je n'ai pas de réponse.
Okay.
Là, mais nous n'avons pas ça au Maroc. La majorité des personnes qui font le change, elles le font dans les banques ou dans maintenant, c'est une chose qui a été nouvellement faite, ce sont les sarrafa, les changeurs de devises. Mais et qui sont aussi, toujours dans l'officiel. Il y a l'officieux aussi. Par exemple, maintenant, vous allez devant une banque ou devant quelqu'un qui fait du change. Et quelqu'un te vient et te dit, tu veux que je te change du jour, je te donne cada. Mais c'est toujours dans une... C'est un marché minime, ce n'est pas très étendu en Maroc. Donc la chose ne se pose pas... Et puis vous ne trouvez pas de grande différence. C'est quelques centimes en plus qu'il vous donne, donc ce n'est pas un autre taux tellement... De plus. Et je ne pense pas que vous en obtiendrez encore. je ne peux pas vous donner d'avis.
Quel est le statut de se marier chez l'imam et seulement chez l'imam? Les défauts, les conséquences de cette façon de faire?
Moi, je ne suis pas d'accord. Mon opinion, c'est qu'il ne faut pas le faire. Je ne dis pas que c'est invalide de le faire, que c'est bâtil de le faire, mais je déconseille très, très, très énergiquement de le faire. Pour ce qui s'ensuit de problème, quelqu'un vient et épouse une fille chez l'imam. Après, il se passe quelque chose, il se bagarre, il s'en va. Comment tu fais pour la divorcer? Il n'aura pas... Il s'en va. Il est en France, il est parti au Maroc. Il est parti en Algérie, en Tunisie. Il ne revient plus. Il s'est marié. Ria, elle est toujours son épouse. Officieusement, légalement, dans la charia, oui. Mais comment tu fais pour maintenant la détacher de lui, la libérer de lui? Comment tu fais? Tu vas chercher, toi l'imam qui l'a marié, tu vas chercher, tu vas chercher. Ou l'inter, tu t'en fous. Ça fait, on t'a donné 50 euros, là 70 euros, tu les as mariés, puis elle se débrouille. Ouais, elle se débrouille, elle va le chercher au Maroc. Il ne veut pas là, il veut pas divorcer. Qu'est-ce qu'il fait? Comment tu fais l'inter d'abord pour trouver une solution? Comment tu fais ça? Fait, elle est foutue de chez foutue, elle dit. Et ça, ce n'est qu'un problème. Imagine qu'elle soit enceinte. Peut-être dans les papiers français, je ne sais pas comment ça va se faire, mais religieusement, avec l'enfant à qui il va... Comment il va faire pour sortir ses papiers qu'au Maroc, ou là en Algérie, ou là, là c'est le fils de tel. Il n'y a pas de papier. Il n'y a pas de papier. Comment tu fais? S'il meurt, il n'y a pas d'héritage, il n'y a rien. Comment tu fais? C'est une débâcle qui est en train de se passer. Ce sont des problèmes sans fin que tu es en train de créer quand tu es d'accord pour faire un mariage sans papier. Malheureusement, écoutez, nous vivons dans une époque de papier. Les droits et les obligations vont avec les papiers. Je ne parle même pas de France, partout. Cette histoire, elle est aussi bonne pour la France comme pour le Maroc, l'Algérie, tu dis partout. Tu es incapable de présenter une justification que telle était sa femme, que tel est son fils, que. Et ouais, ça veut dire, là, on vient s'épouser, pourquoi? C'est pas, c'est légal, c'est islamique. Là, je parle dans ce mariage civil, est-ce que le prophète, est-ce que. Pourquoi pas, scoule. Ah, j'ai dit que le mot de l'homme, mais qu'est-ce que le mot de l'homme? T'as vu, juge, man, juge, tchako, célèbre, c'est vrai, qu'est-ce que c'est, petit ça. Il faut comprendre. C'est pour ça la question, est-ce que le prophète l'a fait? Oui, il l'a fait, donc je le fais. Alors, ça fait, on t'a fait indéfiniment. 50 fois par jour, on t'a dit. On t'a rassemblé, fait le jam de salawat d'ici à 20 ans avant, au zga, ça fait. Ça va? Rahat, le prophète l'a fait. Je n'ai pas dit, ça il faut prendre les choses sérieusement. Moi, c'est de la bonne. C'est pour ça que je dis, je ne dis pas que ce n'est pas légal religieusement, mais qu'est-ce qui se passe après comme problème? Et des problèmes insolubles. Et Allah, elle a 17 ans, 18 ans, 19 ans. Elle n'est plus mariable. Elle a perdu une condition de validité du mariage. Et elle ne peut plus être mariée, sauf s'il la divorce. Et lui, il ne veut pas divorcer. Il est introuvable. Tu sais même pas où il est. Parti. Et je vous dis. Tu sais ce que ça. C'est quoi la solution, religieusement? Ça, on appelle ça la femme du mafkoud. Le mafkoud, le perdu. Et vous savez, la femme du mafkoud, qu'est-ce qui se passe pour elle? Il y en a plusieurs des opinions selon le cas de la perdition. Pas la perdition physique, c'est qu'il est introuvable. Elle attend 70 ans. Ah, c'est haut. Ah, on va faire un minute, on va faire un minute. 70 ans, elle va attendre. Elle a 20 ans. Ne t'inquiète pas, on va te marier, Inch'Allah. Juste attends 70 ans. Quand tu auras 90 ans, bah reviens. C'est bon, ça va être réglé. Insolible. Tu vas faire comment? Et quand le fils qui va naître, on lui dira, où est ton père? Non, tu sais, il y a quelque chose qui non, ton père, Kada, non, tu n'es pas un fils légitime. Est-ce que vous pensez à ça? Vous réfléchissez à tout ça? Alors c'est pour ça que ceux qui disent qu'il ne faut pas, ce sont des raisons mais très 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 importantes pourquoi ils disent qu'il ne faut pas le faire. Après, si il insiste de faire, ben fais-le. Je m'en fous. Fais-le. Après, ne viens pas pleurer. Oh, Nakada, là, il vient pleurer. Oh, Nakada, oui, ça arrive, il ne faut pas le faire. Tu l'as fait, Rabbi Kigolo, leader habité. Qu'est-ce tu as fait une aqda. Tu as fait un nœud. Tu as fait un nœud, mais tellement serré que tu n'arrives plus à desserrer. Les Marocains disent, celui qui fait un nœud avec ses mains, qui le dessert avec ses dents. Les anciens arabes, ils disaient, Yadaka awkata wa fuka nafakh. La main, c'est toujours toi qui l'as fait, tu te débrouilles. Tu dis, ktab. Non, c'est bien, très soul.
Je ne fais pas changer. Hein? 7000 euros d'amende pour l'imam s'il fait.
Une différenciation.
Donc, s'il marie des gens.
Là, combien? 7000 euros.
7000 euros, 7000 euros.
Et combien est-ce qu'il prend l'imam quand il fait un mariage? Combien?
Entre Fisabilah et 100 euros, 150 euros.
Donc, combien lui faut-il de 150 euros pour arriver à 7000 euros?
Bizarre.
خصو يماري فرنسا باريس الضواحي ديالها باش يخلص داري بوحدها.
Mes parents sont pauvres. Je donne des fois à mes parents et des fois à des pauvres. Je donne l'aumône des fois à mes parents, des fois aux pauvres. est-ce que je devrais donner plutôt à mes parents qui sont pauvres, obligatoirement ou pas?
S'il veut dire par le mot zakat, zakat,
ouais, zakat en arabe.
Là, on dit zakat.
Ou sadiq, ou ktub, ou ktub. Ou ktub sadaqa, chez l'ktub.
Bon, déjà, zakat. Et là, c'est bon. Zakat ne peut pas être donné aux parents. Ni aux parents, ni à la fille, ni au fils, ni à toute personne pour laquelle tu es obligé de subvenir aux besoins. Et tes parents, s'ils sont pauvres, tu es obligé de leur donner ce qu'il faut pour subvenir à leurs besoins. Donc ce n'est pas le domaine que tu fais, tu es dans l'obligation de faire. Donc, et aux personnes que pour lesquelles nous avons l'obligation de subvenir aux besoins, nous pouvons donner la zakat. Si ce n'est pas la zakat, c'est l'aumône. On ne parle pas d'aumône quand on donne aux parents. Vous savez, l'aumône, c'est awsakhunnas. C'est la... On est en train de laver notre argent à nous en donnant de l'aumône. On est en train de faire tahara à notre argent. Donc, normalement, on ne devrait pas le donner aux parents. Ce n'est pas aux parents. C'est les parents, il faut subvenir aux besoins. Après, l'aumône, on peut donner à d'autres. Mais les parents, normalement, ne peuvent même pas être considérés comme aumône. Déjà, tes parents, s'ils ont dans le besoin, ils peuvent prendre de ton argent. Ils peuvent même pas attendre que tu leur donnes. Ils peuvent eux-mêmes prendre. Comment tu peux leur faire l'aumône alors qu'eux-mêmes peuvent prendre ton argent? Ils n'ont qu'à tendre les mains pour se servir.
Mon mari exprime le divorce quand il est énervé. Je patiente pour le bien de ma famille. Quel est le statut religieux de cela? Et est-ce que nous sommes toujours mariés ou pas?
Il prononce le divorce.
Pétalard.
S'il prononce le divorce, tu es divorcé. Maintenant, il est énervé, c'est normal. Et le divorce n'est généralement prononcé que s'il y a énervement. Une autre façon de faire n'est même pas envisageable. Je ne pense pas que quelqu'un est en train de raconter ses blagues avec sa femme et puis, une fois qu'il a ri bien comme il faut, il dit ben, « Merci, hein, tu m'as fait rire, tu es une titanic. » Je ne pense pas que ça se passe comme ça, non? Et plutôt, il y a une dispute, il y a un énervement, ça va en haut. Et puis, il dit, bon, tu t'alèques. Le fait qu'il soit énervé, c'est l'état normal des choses. C'est ce qui va avec le divorce. Dans la majorité des cas. Bien sûr, il y a des fois un divorce à tête reposée. Mais ce n'est la façon générale, c'est quand il est énervé. Là, maintenant, tu viens, tu me dis, je suis énervé. Je lui dis que tu es divorcé. Ben, tu lui dis que tu es divorcé. Ben, il est divorcé. Alors je ne sais pas, si vous êtes encore marié et femme, je ne sais pas combien de fois il te l'a dit, mais s'il te l'a dit 3 fois, ben, vous n'êtes plus marié et femme. Allah a'lam.
Que doit faire une femme qui, arrivant au début du Ramadan, n'a pas fini de rattraper pour des raisons de santé ses jours de jeûne manqués du mois de Ramadan dernier?
Ben, qu'elle les rattrape après le deuxième Ramadan. Si, et uniquement si, elle n'a pas réussi à rattraper tous les jours de Ramadan, du premier Ramadan, à cause de sa santé. Elle n'a rien d'autre à faire que de rattraper les jours qu'elle n'a pas encore rattrapés. Maintenant, si elle a eu le temps de rattraper, et qu'elle ne l'a pas faite, et elle n'avait pas de raison pour ne pas le faire, elle est tenue de les rattraper et en plus de faire la fidya. La fidya, c'est la nourriture d'un miskin pour chaque jour non fait. Maintenant, si elle doit rattraper 10 jours, elle rattrape les 10 jours et elle donne à manger à 10 mendiants. Un mendiant par jour.
Voilà. Assalamu alaikum. Je suis en train de dire l'Adam. Assalamu alaikum. J'ai eu récemment un problème avec l'achat d'une voiture. Le vendeur a musulman m'a arnaqué dans les détails. Est-il permis en islam d'avoir recours à la justice des non-musulmans pour récupérer mon bien, c'est-à-dire l'argent de la voiture et les frais de réparation que j'ai payés, sachant que le délit est passable de 37 000 euros, etc.
Le bien d'un musulman ne peut lui être enlevé que s'il veut bien lui-même qu'il lui soit. Sinon, on n'a pas le droit d'en lui enlever son bien. Maintenant, s'il lui est enlevé malgré lui, eh bien, il doit avoir recours à une solution qui lui permette de récupérer son bien. Jahiliya, avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit envoyé, il y a eu un pacte entre les Quraishites. Ils ont fait un pacte dans lequel ils se sont mis d'accord qu'ils ne laissent aucune personne subir une injustice dans le camp. Et que toute personne qui subit une injustice, ces gens-là qui ont fait ce pacte seront avec lui jusqu'à ce que le tort lui soit rendu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour a parlé de ce pacte et il a dit que du'aytu ila hilfin, j'ai été invité à ce pacte qui tel et tel, bon, l'objet du pacte. Si je suis invité à un pacte pareil en islam, j'irai. Ce qui veut dire que rendre l'injustice, c'est une chose dans laquelle toutes les religions sont venues pour. Maintenant, cette personne a subi une injustice, et il n'y a pas d'autre moyen de dégager cette injustice que d'aller vers la justice française. Je pense que c'est très très bien mérité pour celui qui lui a fait le tort. Et on a, je dirais, même 370 000, ce serait peu. Ce serait une leçon pour les autres aussi.
Le mariage.
Allahu a'lam.
Le mariage, il écrit un zawj al-Fatiha. Le mariage avec la Fatiha, seulement, sans la dot, est-ce qu'il est valable?
Le mariage, sans dot, n'est pas un mariage valable. Et la dot est une est un fondement, des quatre fondements de l'acte mariage. Mais est-ce que la dot doit être donné, reçu? Non, il peut y avoir dot. Soit elle peut être donnée après, soit. Bon, il y a plus, mais il faut qu'il y ait dot. Il faut que qu'on parle de dot. Il faut pas passer la dot sous silence, disant que bon, il suffit de. Déjà, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire faire le Fatiha dans l'acte de mariage. Le Fatiha, ni obligation, ni condition de validité de la. Quelqu'un qui fait un acte sans lire la Fatiha, c'est un acte, s'il a les autres conditions, c'est un acte valide. Mais si tu fais uniquement la Fatiha, c'est un acte invalide, sans aucune divergence là-dessus. Fatiha, c'est dans la salah, c'est pas dans le mariage, l'acte. Allahu a'lam.
Est-il possible à une femme de demander à son époux de ne pas jeûner un jeûne surrogatoire, d'autant qu'ils vont passer toute la journée ensemble et que l'époux n'est pas souvent là?
Oui, parce que l'époux, comme l'épouse a son obligation de satisfaire son mari, le mari aussi a pour obligation de satisfaire son épouse. Et puis le propre du mariage, c'est d'éviter au mari comme à la femme de regarder ailleurs. Et ça, c'est une chose Allah subhanahu wa ta'ala a créée dans l'homme et dans la femme. Si tu n'es toujours pas là, et quand tu es là, tu fais le jeûne, c'est que tu n'es jamais là. Et vous savez que Abdullah ibn Amr ibn al-As s'est marié, son père Amr ibn al-As radiallahu anhu l'a épousé, lui a donné une femme. Un jour, il est venu pour voir sa belle-fille. Il lui pose la question, comment ça se passe. Alors, elle commence à faire l'éloge de son mari, Abdullah ibn Amr. Et lui dit, Abdullah ibn Amr, ton fils, c'est ni'ma al-abd. Il n'y a pas de abd meilleur que lui. Il fait le jeûne, il fait kada. Elle lui explique d'une manière très polie que il ne fait pas ce qu'il doit faire. S'il jeûne toute la journée, s'il fait la prière toute la nuit, eh bien, il n'a plus le temps pour son épouse et il est récemment, ce sont de nouveaux époux. Alors le père, il comprend la chose. Il va et gronde son fils. Il l'insulte. Moi, je t'ai choisi une femme parmi les meilleures de Quraysh, etc. Et toi, tu lui fais comme ça, tu lui fais comme ça. Et puis, il l'emmène vers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui dit, regarde ça là. Et puis, le prophète dit à Abdullah ibn Amr, obéis à ton père. C'est-à-dire, fais le jeûne et ne le fais pas. Altère un peu. Fais la prière de la nuit, mais laisse encore un peu. Parce que tu as des obligations envers Allah, envers toi-même, envers ton invité, envers ta femme, et il faut que tu donnes à toute personne ayant une obligation, tu lui donnes ce qu'elle te doit. Et c'est la même chose que je dis à cette personne-là. Allahu a'lam.
Une dernière question. Mon mari fait entrer de l'argent qui vient du vin et de l'alcool, et je refuse. Que dois-je faire?
Tu refuses quoi?
Refuse hadha al-wada', en arabe écrit.
Oui, mais en refusant cette situation, tu fais quoi? Tu ne manges pas de ce qu'il... Oui, je refuse. C'est-à-dire que tu lui dis, non, moi je n'accepte pas. Mais après, quand il achète des choses, de la nourriture, etc., qu'est-ce que tu fais? Tu manges, tu ne manges pas? C'est-à-dire que le refus s'étend aussi à ça, ou tu te limites à lui dire, non, je refuse? Je ne sais pas. Mais de toute façon, c'est bien de refuser, c'est bien de gronder, mais si tu manges, ce n'est pas haram. C'est bien de ne pas manger, parce que c'est toujours nuisible de se nourrir et de nourrir les enfants par des choses totalement haram. C'est pas bien qu'il y ait cette évolution avec de l'argent purement haram. C'est très nuisible, c'est grave. Mais l'ithm ne t'incombe pas, ni toi ni tes enfants si vous en avez. L'ithm lui incombe à lui uniquement. Mais c'est bien de ne pas manger, essayer de ne pas... Je ne sais pas, si vous trouvez d'autres solutions, s'il y a une autre source de... Manger d'autres sources uniquement et laisser lui ses revenus, etc. Et puis s'il y a quelqu'un que ton mari respecte, ben qu'il lui en parle. C'est malheureux. Allah yaslah al-ahwal. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.
Donc on remercie le cheikh pour ce week-end. C'est peut-être un des meilleurs week-ends de cette mosquée-là. Donc on remercie et on espère que lui aussi il a passé un bon moment avec nous, même si on l'a un peu fatigué avec nos questions.
Excuse-moi de t'interrompre, mais il faut que je t'interrompe parce que c'était un week-end agréable et Allah subhanahu wa ta'ala, plus du fait qu'il soit agréable, qu'il nous soit bénéfique. Allah ta'ala, à moi comme à vous. Et peut-être à la prochaine, Inch'Allah.
Donc, les questions, on n'a pas pu tout répondre. Les questions, il n'y avait pas une qui n'était pas de qualité. Toutes les questions étaient toutes de qualité, mais à cause de la restriction de temps, la restriction les priorités, il y avait beaucoup de choses qui sont répétées aussi. Les questions, il y a beaucoup de questions ici qui ont été déjà répondues par le cheikh. Vous pouvez directement regarder, cherchez-vous juste le nom du cheikh, regardez les questions auxquelles il a répondu, et des choses qui sont en rapport avec le contexte qu'on vit en France. Il a répondu le cheikh, donc on n'a pas estimé nécessaire de reposer la même question, cheikh. Dernière petite chose, deux choses. La première chose, c'est qu'il faut faire dua pour notre cheikh, que Allah subhanahu wa ta'ala le protège dans sa famille, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le protège dans sa santé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne encore plus, inshallah, de science, et qu'il fasse qu'il soit utile pour la communauté, où qu'il soit. Ensuite, la deuxième chose, je vais vous demander de bien vouloir libérer le cheikh le plus vite possible. Pourquoi? Parce qu'il va voyager, il va être dans un pays dans les heures qui suivent, donc on va vous demander, barakallahu fikoum, de ne pas l'accrocher et de rester avec lui. Lui, il va pas dire non, le cheikh ne dira pas non, il va rester, mais malheureusement, je vais vous demander, barakallahu fikoum, de bien vouloir libérer le cheikh, barakallahu fikoum. دعاء الختام إن شاء الله ولا شيء كلمة أخيرة إن شاء الله.
الله يوفق الخير إن شاء الله تعالى أن يبقي علينا ديننا إلى أن يأخذنا إليه، ونسأل الله تعالى أن يحفظ الأبناء والبنات، نسأل الله تعالى أن يجعلنا في قرة عين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين والحمد لله رب العالمين.